Chapitre 10. Desmond. Le surlendemain, tout en prenant son chocolat chaud du matin, Hercule Poirot lut pour la seconde fois une lettre reçue au courrier de ce jour-là. L'écriture n'en était pas vilaine, mais trahissait cependant plus de fraîcheur d'âme que d'absolue maturité. « Cher monsieur Poirot, vous allez trouver ma lettre plutôt étrange, je le crains, mais je crois que vous comprendrez mieux si je mentionne le nom d'une de vos amies. J'ai tenté de la joindre pour lui demander si elle accepterait de nous mettre en relation, pour que je vienne vous voir, mais elle n'était apparemment pas chez elle. Sa secrétaire, je parle de Madame Ariane Oliver, la romancière, m'a plus ou moins expliqué que Madame Oliver serait partie faire un safari en Afrique orientale. Si c'est en effet le cas, je me rends compte qu'elle ne rentrera sans doute pas avant quelque temps. Je suis pourtant sûr qu'elle accepterait de m'aider. En fait, j'aimerais vraiment beaucoup que vous m'accordiez une entrevue. J'ai un urgent besoin de conseils précis. Madame Oliver, si j'ai bien compris, connaît ma mère qui l'a rencontrée à l'occasion d'un déjeuner littéraire. S'il vous était possible de me donner un rendez-vous pour que je vienne vous voir un jour, je vous en serais très reconnaissant. Je peux organiser mon emploi du temps en fonction de ce qui vous conviendra le mieux. J'ignore si cela a la moindre utilité, mais la secrétaire de Madame Oliver a prononcé le mot « éléphant ». Je suppose que cela a un rapport avec les voyages de Madame Oliver en Afrique orientale. La secrétaire a laissé entendre qu'il s'agissait d'un genre de mot de passe. Je ne saisis pas vraiment de quoi il est question, mais peut-être serez-vous mieux à même de comprendre. Je suis plongé dans une inquiétude et une détresse profonde, et si vous pouviez me recevoir, je vous en serais très reconnaissant. Respectueusement vôtre, Desmond Burton Cox. »
Nom d'un petit bonhomme, éructa Hercule Poirot.
Je vous demande pardon, monsieur, s'enquit Georges.
Simple exclamation, répondit le détective. Il y a des bestioles dont il est très difficile de se débarrasser une fois qu'elles ont envahi notre existence. Dans mon cas, il semble que ce soit une affaire d'éléphant.
Il quitta la table du petit déjeuner, fit venir Mademoiselle Lemon, sa fidèle secrétaire, et lui remit la lettre de Desmond Burton Cox en lui donnant des instructions pour qu'elle convienne d'un rendez-vous avec le jeune homme.
« Je ne suis pas pris outre mesure ces temps-ci, précisa-t-il. Demain me conviendrait parfaitement. »
Mademoiselle Lemon lui rappela deux rendez-vous qu'il avait déjà fixés, mais le détective déclara que cela lui laissait quantité de temps mort et qu'elle pouvait donc organiser la rencontre comme il le souhaitait.
« Un problème ayant trait au jardin zoologique ?»
s'enquit la secrétaire.
« Pas du tout, » répondit Poirot. « Du reste, non, ne mentionnez pas les éléphants dans votre réponse. Trop, c'est trop. Les éléphants sont de gros animaux. Pour un peu, ils vous boucheraient l'horizon. On peut laisser tomber les éléphants. Sans aucun doute, ressurgiront-ils, hélas, dans le courant de la conversation que je me propose d'avoir avec Desmond Burton Cox. »
« Monsieur Desmond Burton Cox, » annonça Georges en faisant entrer le visiteur attendu.
Poirot avait quitté son fauteuil et se tenait debout devant la cheminée. Il garda le silence un instant, le temps de se composer une attitude d'infinie dignité, puis il marcha à la rencontre de son visiteur. Un grand garçon, d'allure dynamique, encore qu'un tantinet nerveux. Quoi de plus normal, songea Poirot. Un peu mal à l'aise aussi, mais s'efforçant avec beaucoup de succès de le dissimuler. Tendant la main, le jeune homme lança « Monsieur Hercule Poirot ?»«
Lui-même, » se rengorgea ce dernier.
« Et vous ? Vous vous appelez Desmond Burton Cox. »«
Asseyez-vous, je vous en prie, et expliquez-moi les raisons qui vous ont amené à venir me voir, ainsi que ce que je peux pour vous. »
« Tout cela est un peu délicat à exposer, » répondit le jeune homme.
« Tant de sujets le sont, » déclara Hercule Poirot. « Cela dit, nous avons tout le temps. Asseyez-vous. »
Desmond toisa d'un air plutôt dubitatif le personnage qui lui faisait face. Une silhouette très comique, vraiment, se disait-il. Crâne ovoïde, moustache superlative, pas tellement impressionnant. Pas du tout, en fait, ce qu'il s'était attendu à affronter.
« Vous êtes détective, non ? » demanda-t-il. « Enfin, bon, vous résolvez des énigmes, vous solutionnez des problèmes. Les gens viennent vous demander de découvrir ce qui pourra les tirer du pétrin. »«
En effet, » répondit Poirot, « c'est une de mes marottes dans l'existence.
Je ne pense pas que vous sachiez pourquoi je viens, ni que vous soyez très renseigné sur mon compte.
Je le suis plus que vous ne sauriez l'imaginer, le contredit Poirot.
Vous voulez dire que Madame Oliver, votre amie, vous aurez touché un mot à mon sujet ?
Elle m'a dit qu'elle s'était entretenue avec sa filleule, une certaine mademoiselle Celia Ravenscroft.
C'est bien cela, n'est-ce pas ?
Oui, en effet. Celia m'a raconté.
Cette Madame Oliver, est-ce qu'elle connaît aussi ma mère ?
Est-ce qu'elle la connaît bien, veux-je dire ?
Non, je ne les crois pas réellement intimes. D'après Madame Oliver, elles se sont rencontrées lors d'un déjeuner littéraire il y a peu et ont échangé quelques mots. Votre mère, si j'ai bien compris, a soumis certaines requêtes à Madame Oliver.
De quel droit est-ce qu'elle a fait ça ? S'emporta aussitôt le garçon.
Ses sourcils s'étaient rejoints au-dessus de son nez. Il semblait furieux à présent, foudrage, presque vindicatif.
« Vraiment, reprit-il, les mères, c'est vrai, quoi. »
« Je comprends, compatit Poirot. Il y a bien des heurts de nos jours entre générations. Peut-être y en a-t-il d'ailleurs toujours eu. Les mères ne cessent de se livrer à des interventions dont leurs enfants préféreraient qu'elles s'abstiennent. Je me trompe.
Oh, c'est à peu près ça.
Cela dit, ma mère... Enfin bon, elle n'aime rien tant que se mêler de ce qui ne la regarde pas.
Celia Ravenscroft et vous, si j'ai bien compris, êtes proches.
Madame Oliver a cru comprendre, toujours d'après votre mère, qu'il était plus ou moins question de mariage entre cette jeune fille et vous, dans un avenir pas trop lointain, sans doute.
En effet, mais ma mère n'a vraiment pas besoin d'aller poser des questions ou de se soucier de sujets qui...
Eh bien non, qui ne la regardent en rien. Les mères sont pourtant souvent ainsi, objecta Poirot. Vous êtes sans doute très attaché à la vôtre, ajouta-t-il avec un léger sourire.
Je n'irai pas jusque-là, répliqua le jeune homme.
Non, je n'irai certainement pas jusque-là.
Voyez-vous,
ma foi, je ferais mieux de vous le dire tout net, ce n'est pas ma véritable mère.
Oh, vraiment ? Il ne m'avait pas semblé comprendre cela.
Je suis un enfant adopté, expliqua Desmond. Ma mère adoptive avait un fils, un petit garçon, qui est mort. Elle a ensuite voulu adopter un enfant, m'a adopté moi et m'a élevé comme son fils. Elle parle toujours de moi comme de son fils. Elle me considère comme son fils, mais en réalité, je ne le suis pas. Nous n'avons aucun point commun. Nous ne voyons pas les choses de la même façon.
Rien là que de très compréhensible, commenta Poirot.
Je m'avise cependant que je ne parviens manifestement pas à aborder de front le sujet à propos duquel j'ai sollicité ce rendez-vous,
déplora Desmond.
Vous souhaitez sans doute me prier d'enquêter sur certains événements qui demeurent pour vous obscurs, afin d'apporter une réponse à vos interrogations ?
C'est de cet ordre-là. J'ignore dans quelle mesure vous êtes au courant de, disons, du problème en cause.
Je le suis en gros, répondit Poirot.
Mais bien des détails m'échappent encore.
Et je ne sais en outre pas grand-chose de vous, ni de Mademoiselle Ravenscroft, que je n'ai pas encore rencontrée. Je souhaiterais d'ailleurs le faire.
Ah oui ?
Eh bien, j'envisageais de la convaincre de vous parler, mais je m'étais dit que je ferais mieux de m'entretenir avec vous au préalable.
Voilà ma foi qui semble fort avisée,
déclara Poirot. Maintenant, si vous le voulez bien, entrons dans le vif du sujet. Quelque chose vous chagrine, vous inquiète. Vous éprouvez des difficultés face à une décision à prendre ?
Pas vraiment, non. Aucune difficulté de quelque ordre qu'elle puisse être.
C'est seulement qu'il s'est produit un drame il y a des années, quand Célia n'était encore qu'une enfant, une gamine. Le genre de drame banal peut-être quand il survient chez autrui, mais qui prend toute son ampleur dès lors qu'il affecte deux êtres que l'on a connus et aimés. Deux êtres qu'un événement dont nous ignorons tout a bouleversés au point qu'ils se sont suicidés. Qu'ils ont commis un double suicide. Personne n'a jamais su la raison qui a pu les pousser à cet acte désespéré, mais leurs enfants ne devraient pas avoir apporté à leur tour cette croix tout au long de leur existence. Cette histoire est finie, et bien finie. Et pourtant ma mère s'obstine à poser des questions. Elle veut savoir, et elle s'en est prise à Célia. Elle l'a mise dans un tel état que Célia ne sait plus vraiment si oui ou non elle veut m'épouser.
Et vous ? Vous avez toujours envie de la prendre pour légitime épouse ?
Cela va de soi. J'en ai la ferme intention. Je suis bien décidé à le faire. Seulement, elle est troublée. Elle éprouve désormais l'impérieux besoin d'être mise au courant. Elle veut comprendre le pourquoi de la mort de ses parents, et elle est persuadée, à tort sûrement, que ma mère en sait plus long sur la question qu'elle ne veut bien l'avouer, qu'elle a eu vent de certaines précisions à propos de cette histoire. Ma foi, j'éprouve beaucoup de sympathie pour vous, déclara Poirot, et il me semble que si vous êtes tous deux dotés de bon sens et que vous souhaitez vous marier, il n'y a aucune raison pour que vous ne le fassiez pas. Je puis en outre vous préciser qu'on m'a donné quelques renseignements concernant cet événement. Comme vous l'avez souligné, il s'agit d'une affaire qui remonte à des années, et on n'a pas découvert le mobile du drame. Mais la vie est ainsi faite. Il est des mystères que nul n'est jamais parvenu à percer. Il s'agissait d'un double suicide, suite logique d'un pacte établi en commun, insista le garçon. Il n'a pu en aller autrement. Mais toujours est-il que vous voulez en connaître la raison, c'est ça? Eh bien oui, c'est ça. C'est ce qui perturbe Célia, au point que j'en arrive à être perturbé par Ricochet. Or, je ne peux rien savoir, pour l'excellente raison que je n'étais pas présent au moment fatal. Vous ne connaissiez pas le général et Lady Ravenscroft à l'époque, ni sans doute Célia? Oh, bien sûr que si. Célia, je la connais depuis toujours, ou presque. Les gens chez qui j'allais passer mes vacances quand nous étions enfants étaient voisins de ses parents à elle, et nous nous entendions déjà comme larrons en foire. Là-dessus, bien sûr, tout ça est tombé aux oubliettes. Je n'ai revu Célia que plusieurs années après. Ses parents et les miens vivaient en Malaisie, voyez-vous, et je crois que, nous partis, mon père et ma mère avaient continué à la fréquenter. Mon père est mort, soit dit en passant. Mais je crois qu'à l'époque, ma mère a eu vent de rumeurs et qu'à présent, elle s'est monté le bourrichon et persuadée qu'elles étaient fondées. Or, je suis sûr que ça ne tient pas debout, que ça ne peut pas tenir debout. Et pourtant, elle paraît décidée à empoisonner l'existence de Célia en ramenant sans cesse la question sur le tapis. C'est pourquoi il faut que je sache ce qui s'est réellement passé, le pourquoi, le comment des choses, pour la tranquillité d'esprit de Célia, et pour pouvoir faire table rase des sornettes que colportent les gens. Rien d'anormal à ce que vous éprouviez tous deux ce besoin, acquiesça Poirot. Et Célia, plus encore que vous, j'imagine. Mais si toutefois je puis me permettre, cela importe-t-il vraiment? Cette jeune fille que vous voulez épouser, en quoi le passé la concerne-t-il? Ce qui compte dans la vie, c'est le présent. Qu'importe que ses parents aient conclu un pacte de suicide ou que l'un d'eux ait été tué par accident et que l'autre se soit ensuite suicidé, en quoi cela serait-il plus grave que s'ils étaient banalement morts tous deux dans un accident d'avion? Je vous accorde que vos propos sont frappés au coin du bon sens, admit bien volontiers Desmond Burton Cox. Cependant, les choses ont pris une tournure telle qu'il faut maintenant que Célia connaisse l'apaisement. C'est quelqu'un qui prend les choses très à cœur, même si elle n'est pas très loquace sur le sujet. Vous est-il venu à l'idée, reprit Hercule Poirot, que la tâche risquait d'être très difficile, voire impossible? Elle ne sera certes pas commode, à moins qu'il ne surgisse comme par miracle, qui sait, un quelconque élément nouveau? En effet. Mais l'élément nouveau en question aurait forcément trait à une péripétie qui se serait produite autrefois. Alors quelle valeur pourrait-il bien avoir aujourd'hui, après tout ce temps? Ce qui revient à dire, n'êtes-vous pas en train de me demander l'impossible? Non, fit Desmond. C'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je crois que ça devrait être parfaitement possible. Très intéressant, commenta Poirot. Et pourquoi pensez-vous que ce serait parfaitement possible? Parce que quoi? Vous avez bien une raison. Il y a forcément des gens qui connaissent le fin mot de l'histoire, des gens qui n'ont sans doute aucune envie de raconter à Célia ou à moi, mais auxquels vous pourriez tirer les vers du nez. Vous commencez à m'intéresser, fit Poirot. Il s'est autrefois passé des événements assez louches, poursuivit le jeune homme. J'en ai plus ou moins vaguement entendu parler. Quelqu'un, Lady Ravenscroft elle-même peut-être, a passé des années dans un établissement psychiatrique à la suite d'un drame survenu quand elle était jeune. Un enfant est mort, et il semble qu'elle en ait été plus ou moins responsable. Il s'agit là d'événements dont vous avez été témoin, ou de bruits qui vous ont été rapportés? De confidences que m'a faites ma mère, d'après des bruits qui circulaient à l'époque en Malaisie. Et vous voulez savoir si les bruits en question étaient fondés ou pas?
L'enquête ne va pas être facile, objecta Poirot.
Oui, mais j'ai entendu dire monts et merveilles à votre sujet. On prétend que vous n'avez pas votre pareil pour découvrir la vérité, si profondément enfouie soit-elle au milieu du mensonge. Que vous savez mieux que quiconque amener les gens à s'épancher.
Et quels gens souhaitez-vous voir s'épancher dans mon gilet? La Malaisie tout entière, ou du moins ce qui y demeure de la colonie britannique du temps de vos parents?
Non, loin de moi cette idée. Il ne doit d'ailleurs plus y rester personne en place.
Il n'y a donc pas de nom que vous puissiez m'indiquer?
Là-bas, aucun, répondit Desmond.
Ailleurs, en ce cas.
Je vais vous déballer le fond de ma pensée. Il est à mon avis deux personnes susceptibles de savoir ce qui s'est passé et pourquoi cela s'est passé. Et cela pour l'excellente raison, voyez-vous, que l'une et l'autre ont, à des moments différents, été dans la place.
Et pourquoi donc n'iriez-vous pas les interroger vous-même?
Oh, je le pourrais. Mais je ne pense pas, voyez-vous, qu'elle consentirait à me... Je ne sais pas comment exprimer ça. Et puis, pour tout vous dire, il y a certaines questions qu'il est impératif qu'on leur pose, et que pour rien au monde je n'aimerais avoir à leur poser moi-même. Pas plus d'ailleurs que Célia. Ces personnes se sont toujours montrées d'un dévouement absolu, et c'est pour cette raison même qu'elles doivent savoir la vérité, et que, tout en la sachant pertinemment, elles ne l'ont jamais avouée à la police. Pas parce qu'elles étaient mal intentionnées, mais parce qu'elles devaient s'en vouloir de n'avoir pas pu aider, de n'avoir pas été à même d'intervenir pour normaliser la situation, ou tout au moins tenter de le faire. Oh, je formule ça tellement mal.
Vous vous en sortez au contraire très bien, sourit Poirot. Et d'ailleurs, encore une fois, votre histoire m'intéresse et je pense que vous avez une idée précise en tête. Seulement, dites-moi, Celia Ravenscroft est-elle d'accord avec vous pour ce qui est de ses démarches?
Je ne lui ai pas parlé de grand-chose, mais vous savez, elle était très attachée à Maddy et à Zélie.
Maddy et Zélie?
C'est comme ça que s'appellent les deux personnes en question.
Oh, il faut que je m'explique.
Voyez-vous, quand Célia était encore toute gamine, à l'époque où j'ai fait sa connaissance, elle avait un genre de... disons qu'on appellerait sans doute ça à l'heure actuelle une fille au père. Mais en ce temps-là, on parlait de préceptrice. Une préceptrice française, vous voyez, une mademoiselle, une adorable mademoiselle. Elle jouait avec nous tous, les enfants, et Célia l'appelait toujours Maddy en guise de diminutif. Si bien que toute la famille en est venue à appeler la préceptrice Maddy.
Oui, je comprends.
Comprenez aussi que, puisqu'elle était française, je me sois dit qu'en plus de vos inappréciables qualités, votre communauté de langue ne pouvait que faciliter vos rapports. Nul doute en effet qu'elle accepte plus volontiers de vous confier à vous ce qu'elle n'a jamais voulu évoquer avec d'autres.
Et le second prénom que vous avez prononcé?
Zélie. À peu près la même chose, voyez-vous. Une mademoiselle, elle aussi. Maddy est restée 2 ou 3 ans, je crois, à la suite de quoi elle est retournée en France, ou plutôt en Suisse, me semble-t-il. Et cette autre préceptrice est venue, plus jeune que Maddy, et que Célia a aussitôt surnommée Zélie. C'était une très jeune et jolie fille, très gaie. On l'adorait tous comme des fous. Elle faisait des jeux avec nous, on raffolait tous d'elle. Les adultes de la famille aussi. D'ailleurs, le général Ravenscroft l'appréciait beaucoup. Ils jouaient souvent ensemble, au piquet, vous voyez, et à un tas d'autres jeux.
Et Lady Ravenscroft?
Oh, elle adorait Zélie, elle aussi. Et d'ailleurs, Zélie le lui rendait bien. C'est pour ça qu'elle est revenue après être partie.
Revenue?
Oui, quand Lady Ravenscroft est tombée malade, qu'elle est allée à l'hôpital, Zélie est revenue pour lui tenir lieu de dame de compagnie, s'occuper d'elle. Je n'en jurerai pas, mais je crois, il me semble, j'en suis même pratiquement sûr, qu'elle était là quand le drame est arrivé. Alors du coup, voyez-vous, elle sait sans doute ce qui s'est vraiment passé.
Et vous connaissez son adresse? Vous savez où elle habite à présent?
Oui, je le sais. J'ai trouvé son adresse. J'ai trouvé leurs adresses à toutes les deux. Peut-être pourriez-vous aller les voir l'une et l'autre? C'est beaucoup vous demander, je sais, mais...
Le jeune homme s'interrompit. Poirot le fixa du regard pendant quelques instants.
Oui, finit-il par capituler. C'est une possibilité.
Certes, une possibilité.